Bonjour et bienvenue sur le podcast Inspire Expire. Je suis Gabrielle, professeure de yoga et je t'accueille ici pour parler yoga bien sûr, mais aussi bien-être et santé mentale au quotidien. Nous sommes en septembre 2023 et l'automne vient tout juste de commencer. Et j'avais envie de dédier cet épisode à 5 plaisirs d'automne qui me font la joie dans cette saison. L'automne a de plus en plus bonne presse ces dernières années. Cependant, c'est une saison qui ne plaît pas à tout le monde. De mon côté, j'ai appris progressivement à aimer cette saison. Surtout que maintenant, l'été, avec le réchauffement climatique, est beaucoup plus impitoyable, avec beaucoup plus de chaleur, de moments de canicule. Et donc j'apprécie beaucoup le moment de la fin août et de septembre, avec la baisse des températures, mais aussi la baisse de la luminosité à laquelle je suis très sensible. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un épisode pour vous forcer à aimer l'automne si ce n'est pas votre saison. Mais j'avais envie de vous proposer quelques éléments positifs que j'ai autour de cette saison. Soit parce que ça résonne avec vous, parce que vous aussi vous aimez l'automne et que vous aimez ces mêmes plaisirs que je vais vous partager. Soit parce que même si vous n'aimez pas cette période plus sombre, peut-être que vous allez trouver des petites idées qui vont vous aider à mieux la traverser. Je vais notamment vous proposer aussi des idées d'activités à faire. Et s'il y a des activités qui vous plaisent, ça peut vous donner justement de la joie et de l'anticipation à être en automne. Et je vais d'ailleurs relier certains de ces plaisirs d'automne que je vous partage avec des pratiques yogiques. En soi, je trouve que l'automne, c'est la saison qui représente le mieux le yoga. En automne, il y a vraiment une baisse de l'activité. Certains animaux vont se mettre à hiberner, certains oiseaux migrent, les arbres perdent leurs feuilles, la lumière est moins présente. Et donc il y a vraiment cette sensation, avec cette baisse d'activité extérieure, d'un appel à revenir à l'intérieur et à l'essentiel. Exactement comme pour les arbres. S'ils perdent leurs feuilles, c'est parce que la sève, ils ne vont plus la pousser aux extrémités des branches, mais ils vont la reprendre et la recentrer sur le tronc et les racines, donc les éléments essentiels de l'arbre. Et les feuilles sont privées de sève et du coup, elles changent de couleur, elles s'assèchent et elles tombent. Et je trouve que cela fait énormément écho à la pratique yogique, puisque le yoga nous invite à retourner à l'intérieur et à venir observer déjà ce qui se passe, donc ça peut être notre état mental, émotionnel ou physique. Et ça peut être aussi une pratique qui nous aide à revenir vers ce qui est essentiel, par exemple sur le plan de notre personnalité, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et si on pousse encore plus la pratique vers son but ultime, c'est la question de qui je suis, quelle est ma nature, donc des questionnements sur le plan métaphysique. Donc vraiment un retour vers l'intérieur, vers l'essentiel, vers l'origine finalement. Donc bien sûr, on peut faire du yoga toute l'année, mais je trouve qu'il y a une forme vraiment d'écho et de résonance entre la pratique du yoga et l'automne. Amener des réflexions sur le lien entre yoga et quotidien est quelque chose qui me passionne et donc c'est un épisode qui est totalement dans cette veine et j'espère vous en faire plus dans le futur. Et maintenant, il est temps de découvrir ces 5 plaisirs d'automne que j'ai hâte de vous partager. Le premier de ces plaisirs, c'est la lumière particulière de l'automne avec les bougies. Je suis, comme je vous le disais, très sensible à la lumière. Et celle d'automne me convient beaucoup mieux, car elle est plus douce, plus agréable pour moi. Mais bien sûr, cette baisse de lumière, elle vient avec une baisse de la luminosité, qui peut avoir un impact sur l'humeur. Et donc, pour pallier ce manque de lumière, il n'y a rien de mieux, je trouve, que d'allumer des bougies. Ça apporte aussi une petite touche de merveilleux. Aujourd'hui, ce n'est plus une nécessité d'utiliser des bougies ou d'autres matières qui se consument pour éclairer la nuit, puisque nous avons donc l'électricité. Et du coup, je trouve qu'il y a une notion de conscience et de beauté et de présence à choisir consciemment d'allumer des bougies, que ce soit en complément d'une lumière électrique ou que ce soit seulement ces petites bougies. Et d'ailleurs, c'est une activité que j'ai hâte de faire. Quand les jours auront suffisamment raccourci et que les matins seront plutôt sombres, c'est de pratiquer le yoga à la seule lueur de quelques bougies. Et ça peut être quelque chose qui vous aide à avancer dans l'automne, avancer avec ces matins qui s'assombrissent et pendant lesquels il est plus difficile de se réveiller, c'est d'avoir ce petit côté magique de se dire « oui, mais c'est parce qu'il fait sombre que je vais pouvoir bien profiter de cette pratique yogique à la lueur des bougies ». Et ça favorise aussi le calme des pensées puisque notre vue n'est pas posée sur différents éléments de notre environnement, ce post-it où on sait qu'il y a notre to-do list, ce petit coin de la pièce où on sait qu'il faut ranger, ça fait des semaines qu'on ne l'a pas fait, et au final, réduire la lumière, c'est réduire l'espace qui est éclairé, et c'est donc aussi donner la possibilité, encore une fois, de rentrer un peu plus vers l'intérieur, de rentrer aussi un peu plus vers le calme du mental. Encore une fois, quand il n'y avait pas l'électricité, le foyer, c'était la seule source de lumière et de chaleur. Et c'était autour de cette source que se rassemblaient les personnes une fois la nuit tombée. Et il y a des études qui montrent que une lumière tamisée, ça entraîne souvent des conversations plus intimes. Et surtout, les conversations sont plus tournées vers les humains que vers les objets. Et ça rejoint ce que je vous disais auparavant, comme les objets sont moins éclairés, le mental est moins attiré vers eux, et du coup ils se ressentent vers ce qui est là et ce qui est essentiel. Et dans ce cas-là, c'est les conversations entre humains. Donc ce retour vers l'intérieur, vers aussi l'humanité. Deuxième plaisir d'automne, retrouver mes pulls et mes plaids. J'adore mes pulls qui sont tout doux, j'adore avoir chaud, enfiler un pull pour avoir chaud. J'adore cette sensation de toucher qui souvent m'apaise et me fait beaucoup de bien. Et puis j'adore retrouver mes plaids dans lesquels m'enrouler, que ce soit dans le canapé en regardant la télé ou que ce soit sur mon tapis. En été, on ne peut pas se déshabiller plus pour avoir moins chaud. Il y a un moment donné, on a enlevé toutes les couches, on ne peut pas trop avoir moins chaud. Alors, ce qui est chouette en yoga, c'est qu'on peut faire des pratiques plus immobiles qui aident à au moins stabiliser la température du corps. Mais vraiment, ce qui est cool avec l'automne-hiver, c'est que on peut mettre des gros pulls et puis on rajoute des plaids et encore un, et du coup, on est sûr d'avoir bien chaud, on a vraiment la possibilité de se réchauffer et de se mettre même en mode burrito dans son ou ses plaids et vraiment pouvoir ainsi bien profiter, donc profiter généralement de Shavasana, hein, parce que on a rarement trois plaids sur nous quand on fait du vinyasa, hein. D'ailleurs, on a généralement suffisamment chaud en vinyasa, mais quand on passe au moment de la relaxation, on a vraiment besoin de garder cette chaleur, notamment parce que le temps, lui, est plus frais dehors et que le corps a tendance à plus se refroidir, et du coup c'est vraiment un plaisir d'avoir cette chaleur, mais aussi ce poids des couvertures sur nous. Ça peut faire du bien au système nerveux. Une pratique de yoga qui est idéale en automne-hiver, ça va justement être le yoga nidra. Il y a moins de lumière, on a moins donc d'énergie, et le yoga nidra, ce yoga du sommeil où on essaie de rester à la lisière du sommeil et d'être purement dans une pratique mentale, c'est vraiment une pratique idéale pour se ressourcer. Et donc, c'est aussi une pratique où le plaid, voire les plaids, sont indispensables pour vraiment être bien au chaud et ne pas être dérangé dans la pratique par la sensation de froid. Et au contraire, pouvoir conserver la chaleur, conserver une forme de confort physique qui nous permet de nous concentrer pleinement sur le plan mental. Troisième plaisir, et je ne sais pas, c'est peut-être bien celui-là mon préféré, ce sont les balades en forêt. Il n'y a pas de meilleure période pour moi que d'aller en forêt à cette saison, et je pense que je ne suis pas la seule parmi les personnes qui aiment l'automne. Même si j'aime aller en forêt à d'autres saisons, je n'en ressens pas autant le besoin que en automne. C'est un mélange de plein de choses. Ce sont les couleurs des arbres aussi variées que le vert, le jaune, l'orange, le rouge, le brun, bref, tout ça qui se mélange. C'est aussi le plaisir, j'aime bien aller me balader plutôt en milieu fin d'après-midi parce que sur une journée ensoleillée, donc le soleil va commencer à se coucher, ça va être la lumière rasante de fin de journée, la fameuse golden hour, l'heure dorée. Et c'est donc cette lumière dorée qui va passer à travers les arbres et qui va genre illuminer toutes ces couleurs différentes dans les branches. Et ce sont souvent des moments magiques à vivre. C'est aussi l'occasion de ramasser les feuilles puisqu'elles sont au sol. ramasser des pommes de pin, des glands, avec raison bien sûr, puisqu'il faut aussi en laisser pour faire de l'humus, il faut en laisser pour les animaux. Se faire plaisir tout en ayant conscience de ramasser en proportion raisonnable. Ces balades, comme souvent les balades en général, peuvent être l'occasion aussi de méditation. C'est quelque chose que j'essaie de m'entraîner à faire. Très souvent au début d'une balade, j'ai besoin de penser à plein de choses pour un peu comme décharger. Mais à un moment donné, surtout sur une balade un peu exceptionnelle, dans une forêt que je n'ai pas vue depuis longtemps ou qui est nouvelle pour moi, je vais vraiment essayer d'être présente. Je vais vraiment essayer de bien observer, de bien écouter aussi. Il y a beaucoup de chants d'oiseaux et de bruits d'animaux. D'écouter aussi les feuilles qui craquent sous les pieds, de sentir surtout les odeurs, puisqu'il y a l'humus qui est en création, il peut y avoir de l'humidité, et donc il y a beaucoup d'odeurs qui peuvent venir. Et donc comme là on est dans les cinq sens, donc utiliser les cinq sens pour ramener le mental à la présence. Donc je vous ai dit la vue en regardant les couleurs, l'ouïe en écoutant les bruits, le toucher si je souhaite toucher certaines feuilles, les glands que je ramasse, parfois j'aime bien toucher le tronc des arbres. En termes de goût, je ne ramasse pas les champignons, je ne me sens pas assez aguerrie là-dessus, mais ça pourrait faire partie de la pratique. Et l'odorat dont je vous parlais avec l'humus qu'on peut sentir ou différentes odeurs. Les balades en forêt en automne, c'est vraiment quelque chose que j'anticipe avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Quatrième plaisir automnal, ce sont justement les boissons d'automne. Un de mes plaisirs d'automne, donc, c'est de retrouver certaines boissons que je ne bois qu'à cette période. En premier lieu, la tisane pomme-cannelle. C'est une association qui est pour moi, qui veut dire l'automne. Et c'est une association que j'aime beaucoup pour travailler, je trouve qu'elle me stimule beaucoup. Et elle apporte une notion de plaisir qui rend toutes les tâches beaucoup plus faciles à effectuer. Le truc que j'ai fait l'année dernière et que je veux refaire cette année, c'est du jus de pomme épicé. Parce que c'était trop bon. Donc c'est du jus de pomme et dans lequel on met des épices, on le verse dans une casserole, on met des épices, on fait chauffer doucement et donc les épices vont diffuser leur parfum dans le jus de pomme et on va avoir un jus de pomme parfumé. Et une boisson à laquelle on ne pense pas parce que parfois on ne la place pas dans la catégorie boisson, c'est les soupes. C'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps parce que c'est comme ça qu'on le faisait chez mes grands-parents maternels. Tous les soirs, il y avait une soupe. Et du coup, c'est là où on peut relier ce point sur les boissons automnales avec la pratique yogique, avec une extension vers ce qu'on appelle la pratique d'honneur aux ancêtres. C'est le fait d'honorer les traditions. Donc ce n'est pas une tradition yogique en soi forcément, quoique je suis sûre que l'Ayurveda aurait beaucoup de choses à dire sur les soupes et leurs bienfaits. L'Ayurveda étant la médecine indienne, qui est très en lien avec le yoga. Mais dans mon cas, c'est plus la volonté de poursuivre une tradition familiale, parce qu'elle m'importe beaucoup de par les souvenirs qui y sont rattachés, mais aussi parce que c'est quelque chose qui gustativement me fait beaucoup plaisir. Là où le yoga aussi va m'aider par rapport à ça, c'est qu'il va m'aider à un peu baisser mes objectifs sans m'attacher aux résultats. C'est parce que dans ma tête, j'étais en mode, il faut vraiment que je fasse une soupe par jour, et il faut qu'elle soit faite maison à chaque fois. Et en vrai, c'est un vrai défi en fait, c'est un défi que je ne peux pas faire actuellement. De faire de la soupe maison tous les 2 ou 3 jours, c'est quelque chose qui, de par mon travail avec des cours de yoga faits le soir, de par mon énergie qui est très fluctuante d'un jour à l'autre, bref, c'est pas quelque chose que je peux réellement faire. Et donc, là où avant clairement je ne fais rien parce que je me dis, si j'y arrive pas à 100%, c'est que ça sert à rien donc je fais rien. Avec le yoga, j'ai appris que faire un peu, c'est déjà beaucoup, et qu'il suffit de baisser un peu le défi que je me lance pour progressivement avancer vers cet objectif d'avoir des soupes faites maison tous les soirs. C'est comme ça, c'est aussi la pratique du yoga, parce que dans le yoga, des fois on se lance sur la pratique, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale et méditative, on se lance avec un objectif bien précis, et si on n'atteint pas son objectif, c'est qu'on a échoué. Et donc, l'un des trésors du yoga, c'est de nous apprendre l'important, c'est le chemin, c'est pas le fait d'atteindre l'objectif. Donc, mon but, ça serait de faire une soupe maison par semaine, et pour les jours où il n'y a pas de soupe maison, compléter simplement avec une soupe déjà prête, en brique ou en bouteille. Et même, je dirais, je vais peut-être commencer par faire une soupe toutes les 2 semaines. Et quand je sens que j'ai pris la main sur certaines recettes, que ça devient naturel, presque j'ai plus à réfléchir ou à lire la recette, eh bien, je vais pouvoir découvrir d'autres recettes et peut-être augmenter le nombre de soupes faites. Et peut-être aussi que je vais découvrir que je ne peux pas faire des soupes maison pour tous les jours de la semaine. Parce que ma mamie, elle était femme au foyer à ce moment-là, elle était retraitée avec mon grand-père, et donc elle avait cette possibilité. Moi, ce n'est pas mon cas. Et donc c'est quelque chose que je dois prendre en compte aussi, et ne pas me mettre martel en tête en voulant refaire copier-coller une pratique qui était dépendante d'un ensemble de circonstances. Donc prendre ça en compte, et pouvoir accepter que peut-être, en fait, au final, peut-être que j'aurai une soupe maison par semaine, et le reste du temps, de la soupe déjà prête. Et là, on en revient encore à cette notion de l'automne qui nous aide à retourner vers l'intérieur et vers l'essentiel. Je crois que l'essentiel pour moi, en tout cas pour les périodes fraîches, automne-hiver, c'est d'avoir une soupe tous les soirs. Parce que mon compagnon a réchauffé de la soupe en brique il y a quelques jours et j'étais pas très très bien. Et franchement, ça, de voir la soupe, de la boire, de sentir la chaleur et tout, ça a été d'un réconfort que j'aimerais pouvoir en faire une sorte, comme je disais, de pratique et de pouvoir avoir ce réconfort régulier qui me nourrit. Et comme je vous le disais, le yoga me permet vraiment d'apprendre à prendre conscience de là où j'en suis et de démarrer de là où j'en suis maintenant et pas de là où je souhaiterais être. Et me concentrer sur pourquoi je veux faire ça, quelle est l'importance pour moi d'avoir cette soupe tous les soirs. Le fait de continuer une tradition familiale, le fait d'avoir quelque chose de réconfortant qui me fait du bien. Et me concentrer sur la notion d'expérience et pas sur la performance. Il est plus important de prendre le plaisir d'avoir cette soupe tous les soirs, de me dire que j'apporte à mon corps de l'eau, des légumes, du réconfort. Et non pas de pouvoir juste dire à performance « Oh, je fais une soupe tous les soirs maison, mais je suis claquée, je n'arrive plus à faire tout le reste des activités de ma vie. » Voilà, c'est vraiment cette notion de trouver l'équilibre. Et on arrive au cinquième et dernier plaisir d'automne, qui est le type de musique que je mets toujours en automne, qui revient chez moi naturellement. C'est le lofi jazz. Chaque année, j'ai envie de mettre ces playlists de lofi jazz, que ce soit sur Deezer ou sur YouTube, c'est ma bande-son de l'automne. Lo-fi, lo-fi, c'est low definition, c'est le fait d'avoir un son beaucoup moins beau, entre guillemets, mais qui apporte aussi un caractère, une personnalité. Et j'avoue que pour moi, c'est un son très apaisant, parce que souvent, ce sont aussi des rythmes et des sonorités très douces qui m'apaisent beaucoup, et qui, encore une fois, me semblent tout à fait en lien avec cette saison de repos, en fait, qu'est l'automne, cette saison de « on revient à l'intérieur ». Et c'est en particulier le lofi jazz, les sonorités jazzy me donnent l'impression d'être dans un cocon. Je suis chez moi et pourtant j'ai l'impression d'être un peu dans un café, un coffee shop. Si je prends une boisson chaude avec la fameuse pomme cannelle, alors là c'est le top et j'ai vraiment l'impression d'être dans ma bulle. Cette année, la première fois que j'ai lancé ma playlist lofi jazz, c'était donc un moment où je n'étais pas très bien. Et je m'attendais pas à ça, mais la lancée m'a fait énormément de bien, ça m'a beaucoup apaisée. J'aime beaucoup l'automne parce que c'est la saison où j'ai des rituels bien établis, en termes de retrouver des boissons, des habitudes, etc. Et je me rends compte à quel point ça fait du bien d'avoir ces rituels-là. Donc je ne sais pas si c'est un effet Pavlov, mais dès que je mets maintenant cette playlist, je suis dans mon cocon, je suis bien. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ça se trouve, pour vous, c'est une musique totalement différente qui illustre le mieux et le mieux l'automne. Hein. Je suis pas en train de dire que le lofi jazz, c'est la musique automnale pour moi. Mais bien sûr, nous avons tous et toutes nos goûts, et donc c'est important de les respecter. Voilà pour ce partage de mes plaisirs d'automne. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y a des choses qui ont résonné, que ce soit parce que vous adorez l'automne ou parce qu'au contraire c'est un peu difficile et vous vous dites « Ah ouais, ça pourrait être chouette ça, d'envisager ça ». Peut-être que vous avez plein d'autres idées, enfin c'est sûr, il y a tellement de choses à faire à cette période de l'année. Je serais ravie d'échanger avec vous sur Instagram, que ce soit en story, en DM, en commentaire de mes posts. Réagissez, partagez-nous les différentes activités, ce que vous aimez faire. Est-ce qu'il y a des pratiques yogiques ou des pratiques en lien avec le yoga que vous faites particulièrement en automne, qui sont des petits plaisirs à retrouver en automne? Je serais ravie de vous lire et de partager tout ça avec toute la communauté. Si vous voulez plonger pleinement dans l'automne, je consacre tous mes cours en ligne d'octobre à cette saison, avec justement plein de pratiques différentes de yoga pour explorer pleinement tout ce que l'automne nous apporte, tout ce qu'il symbolise également, et pour justement vous aider à profiter de cette saison dans tout ce qu'elle a à nous apporter et aussi peut-être à pouvoir un peu mieux la traverser. Donc pour vous inscrire au cours en ligne, il suffit de m'envoyer un mail, vous avez mon mail dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi simplement me demander plus de renseignements, il n'y a aucun souci, je serai ravie d'échanger avec vous. Le podcast se développe et vit grâce à vous, grâce à vos recommandations. Merci beaucoup pour les commentaires que vous avez déjà postés, pour les DM que vous m'envoyez, pour les échanges que nous avons tout autour du podcast et des thèmes qui sont abordés. C'est quelque chose qui nourrit le podcast, qui me nourrit également et qui nous aide à avancer ensemble. Et on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et prenez bien soin du monde. À bientôt !